je retourne ça. Ah non, je peux pas. Je peux ?
Tu veux l'enlever ?
Vous me permettez ? Parce que comme ça, vous me voyez. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Vous ne me connaissez pas, mais je suis Salvador Dorantes, comme l'a dit Joachim. Et je suis mexicain. Je suis marié à Lise, produit de la région Qualité Jura Bernois. Et nous avons deux petits enfants, Hugo qui a 5 ans, Diego qui a 2 ans et Appetit qui est dans le four là, en train de se préparer. Alors c'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce matin. J'aime beaucoup votre... Vous êtes très vrai, très spontané, c'est trop chouette. Et aussi, c'est une journée spéciale parce qu'il y a Mathieu et Soline hein, qui célèbrent leur anniversaire. Est-ce qu'on peut quand même les applaudir ? Alors, je ne vais pas vous mentir, je suis quand même un petit peu stressé parce que vous savez que j'ai postulé pour le poste pastoral. Alors quand même, c'est mon entretien d'embauche en direct, cette prédication, n'est-ce pas ? Mais rassurez-vous, je ne suis là pour vous parler de moi, mais de celui qui est merveilleux, comme on l'a chanté, de celui qui est infiniment plus beau, plus bon et plus grand. Alors ce matin, j'aimerais vous partager ce qui est au cœur de ma foi, ce qui fait que je me lève chaque jour et que je dis « Waouh, j'ai envie de te suivre, c'est beau de te suivre, c'est la vie que je veux vivre ». Et on va se plonger ensemble dans ce passage bien connu, mais qui est super surprenant. On va entrer dans Jean chapitre 13, versets 12 à 2. Ce que Jésus fait dans ce texte, il bouleverse ses disciples. Je pense qu'il peut nous bouleverser à nous aussi aujourd'hui. Alors je vous invite à le suivre, soit dans vos Bibles, soit à l'écran. Ah, c'est vers là-bas que je dois pointer. Pendant le dîner, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, se lève des tables, se défait de ses vêtements et prend de la linge qu'il attache autour de sa taille. Puis, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples. Il vient donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je suis en train de faire, tu ne le comprends pas maintenant. » Mais tu le feras après. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. » Et Simon Pierre lui dit, « Alors Seigneur, pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Jésus leur dit, « Celui qui s'est baigné n'a besoin de se laver que les pieds. Il est entièrement pur. Or vous, vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il savait en effet qui allait le livrer. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous ?» Alors pour commencer, petite question, qui parmi vous aime le gruyère ? Ah, vous n'êtes pas timide, bravo ! Et qui aime son odeur ? Moi aussi, je l'avoue, je le trouve pas mal. Mais maintenant, qui aime l'odeur du gruyère sur les pieds de quelqu'un ? Ne levez surtout pas la main, s'il vous plaît. Il y a quelques années, j'étais en rando aux Philippines avec un groupe de potes. On avait longé une rivière tout le long d'une journée. Résultat, chaussures trempées, pieds transpirants. Mauvais combo, hein ? Le soir, quand on rentrait dans le bus, il y avait une telle odeur. Elle montait toute seule. Je voyais mes amis qui commençaient à se couvrir les nez. Et au fond de moi, tout ce que je me disais, « Seigneur, s'il te plaît, j'espère que ce n'est pas moi. » Mais ce n'était pas leurs pieds. C'était les miens. Alors mes amis, ils sont allés s'asseoir de l'autre côté du bus. Et moi, je suis resté tout triste et seul avec mon odeur et mes pieds transpirants. Alors ce que j'ai vécu dans ces bus, n'était qu'une petite odeur, il y a Régé qui est vite réglé avec une douche, n'est-ce pas? Mais dans la vie, il y a parfois des odeurs qui collent plus longtemps. Et parfois, on a l'impression que ce qui pue, c'est qui nous sommes. Les psychologues appellent ceci la honte. Il y a une chercheuse qui le définit ainsi. La honte est ce sentiment persistant que je ne mérite pas d'être aimé, que je ne mérite pas d'appartenir. Et vous savez quoi? Le rejet et la honte vont ensemble comme les deux faces d'une même pièce. Parce que le rejet produit la honte et la honte nous fait craindre encore plus le rejet. Et selon les psys, le rejet est l'une des blessures les plus profondes que l'on peut expérimenter en tant qu'être humain. Et il laisse des traces. Une estime de soi fragile, une difficulté à faire confiance, une peur de l'intimité, parfois même l'isolement. Alors pourquoi est-ce que le rejet est si douloureux? Parce que nous n'avons pas été faits pour être rejetés, mais pour être aimés. Le pasteur et théologien Timothy Keller, qui a écrit tant de livres, il continue de publier même après sa mort, je ne sais pas comment il le fait. Mais il disait ça, il disait que l'être humain a été créé pour l'amour parce qu'il est créé à l'image d'un Dieu qui est amour. Et il utilisait l'image des oiseaux pour illustrer cela. Il disait un oiseau a été créé pour voler. Si on lui coupe les ailes, il devient misérable. Alors de la même manière, si nous en tant que personnes, nous ne sommes pas aimés ou nous ne pouvons pas s'aimer, nous devenons misérable. Notre plus grand besoin, dit Keller, c'est d'être pleinement connu et vraiment aimé. Alors notre plus grand peur, c'est d'être connu et rejeté. Alors que fait-on? On se couvre, on cache ce qui sent mauvais chez nous, on s'est construit une façade qui peut prendre toutes sortes de formes. Que ce soit les réussites professionnelles ou à l'école, l'apparence physique, la popularité, les relations, ou même la religion et l'image qu'on donne d'être spirituel. Souvenez-vous que Jésus parlait des pharisiens comme des tombeaux blanchis. Ils étaient beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur, ils étaient remplis de morts et pourriture. Alors le problème avec ces masques, c'est qu'elles peuvent créer en effet une belle image. Mais l'on sait au fond de nous que cette image, elle est fragile. Et alors, le plus qu'on essaye de la tenir, le plus ça génère de l'angoisse, du stress, parfois même du burn-out. Je sais de quoi je vous parle, parce qu'il y a 3 ans, c'est désir de prouver que j'étais assez bien, nouveau papa, à l'école, au travail, m'a fait arrêter les études pendant 2 mois. J'étais épuisé. Mais cet arrêt, en lieu de me libérer, il a réveillé encore plus de honte. Salvador, si tu étais assez fort, tu n'aurais pas eu besoin de t'arrêter. Est-ce que vous voyez le piège? Alors ce mécanisme n'est pas nouveau. Déjà dans Genèse 3, juste après la désobéissance d'Adam et Ève, que font-ils? Ils se voient tout nus et ils se cachent. Ils se couvrent des feuilles, ils ont honte. Et depuis ces moments-là, la honte est entrée dans le monde et nous connaissons tous ces réflexes. C'est cacher, c'est couvrir, se masquer. Et si l'on regarde bien, dès ces moments-là, Dieu montre que lui, il a la vraie solution. Vous vous souvenez, Adam et Ève, ils se couvrent avec des feuilles qui se dessèchent, qui se déchirent, qui s'envolent. Mais Dieu, il leur fait des choses, des habits qui tiennent plus longtemps. Ils transforment leur feuille en quelque chose de plus digne. Mais le problème, il est si profond que des simples habits ne peuvent pas le régler. Il fallait une solution tout autant radicale. Et quelle est cette solution? Jésus-Christ. Dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, l'apôtre Paul écrit ceci. Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Il s'est humilié en devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Et notre passage de ce matin, Jean 13, nous montre d'une manière presque théâtrale avec ses lavements des pieds, comment Jésus met ses lames en action pour que les disciples comprennent. Quelques jours avant les lavements des pieds, vous savez, Jésus, il avait été accueilli comme roi à Jérusalem. Tout le monde attendait qu'il prenne le pouvoir, qu'il démonte les Romains. Mais que fait-il? Alors, lorsqu'il partageait les repas des Pâques avec ses disciples, Jésus s'élève, il se déshabille et il commence à leur laver les pieds. Ce geste, c'est un scandale. Nous ne comprenons pas. À l'époque, c'était nécessaire de se laver les pieds parce qu'on marchait toute la journée dans la poussière. Mais cette tâche était réservée au plus bas des esclaves. Et surtout dans sa Shabbat, où même un esclave juif n'était pas obligé de laver les pieds d'un autre juif. Cette tâche était réservée au plus bas, à l'étranger, à l'invisible. Et Jésus, le maître, le Seigneur, il choisit de prendre cette position. Et c'est un geste très intentionnel. Si vous vous souvenez du verset qu'on avait lu, Jean précise que Jésus sait que le Père a tout remis entre ses mains. C'est-à-dire que Jésus agit en pleine conscience de son autorité divine. Et nous, on dit, ah oui, c'est cool, c'est sympa. Mais on devrait pouvoir être scandalisé comme les disciples. Et pouvoir dire, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là en bas avec mes pieds sales et ma saleté? Nous, on essaye de se couvrir et toi, tu es en train de te s'habiller. Mais Jésus. Et pourtant, c'est bien ce qu'il fait. Il enlève tout. Il se rend vulnérable. Il touche la sueur et la saleté. Pourquoi? Par amour. Un peu plus loin, dans le même chapitre, au cours de la soirée avec ses disciples, Jésus le dit clairement, « Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. » Ce que Jésus a fait, il a fait par amour, parce que pour lui, l'antidote à la honte, ce n'est pas le masque, ce n'est pas la performance, mais l'amour. Il n'agit pas d'un amour vague, ni d'un amour romantique, mais c'est quelque chose de bien concret, puissant, radical. Ce lavement des pieds a lieu quelques heures avant la croix, c'est-à-dire que la trahison est en marche, Jésus le sait. C'est-à-dire probablement il souffrait déjà. Cependant, il ne se replie pas sur lui-même, il ne s'apitoie pas, il ne dit pas « Ah, mais pauvre de moi, laissez-moi, j'ai trop de problèmes. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers les autres et il sert. Si je suis honnête avec vous, quand j'ai galère, quand j'ai des problèmes, j'ai déjà du mal à respirer. Alors servir les autres, les aimer, pour moi c'est trop difficile. Le problème c'est que nous en tant qu'humains, on aime de manière souvent économique, c'est-à-dire à condition qu'on ait quelque chose à gagner. C'est pourquoi c'est plus facile d'aimer ceux qui nourrissent notre ego, les patrons qui payent notre salaire, la personne cool qui me valorise, l'ami intelligent qui me fait sentir intéressant, ou la personne avec influence qui me fait une place. Mais au fond, on ne fait autre chose que s'aimer soi-même. Et ceci produit la mort. Parce que le plus que je deviens égoïste, le plus que je deviens cruel et dur et jugeant, le plus que je me déconnecte des autres. C'est pourquoi l'amour de Jésus ne cherche pas un échange. Il lave les pieds de tous ses disciples. Où est-ce que nous l'entendons dire à Judas, « Ah non, tes pieds sont trop moches, tu restes avec tes pieds sales. » Non, il lave les pieds de tous, même de ceux qui vont lui faire beaucoup de mal. Judas qui le trahit, Pierre qui le renie, et de tous les autres qui l'abandonnent. Voilà la beauté de l'amour de Jésus. Il ne cherche pas à prendre, mais il donne. Et ce type d'amour, il produit encore plus d'amour, plus de vie, plus de communion, plus de connexion. Alors, cet amour aussi, ce n'est pas les résultats de devoir, ce n'était pas le job de Jésus d'aimer. Mais ce que Jésus fait, c'est parce qu'il est engagé corps et âme envers nous. Il veut à jour redresser tout, chaque blessure, chaque ombre. Chaque ride, il veut nous ramener à ce que nous étions censés d'être depuis le commencement, des êtres qui peuvent aimer sans besoin de se cacher, comme Adam et Ève au jardin d'Éden. Si l'on s'arrête au lavement des pieds en se disant « Ok, je compris, il faut servir les autres, il faut leur laver les pieds », on a raté l'essentiel. Les amis, pour Jésus, le plus important, ce n'est pas d'abord ce que nous faisons, mais qui nous sommes. Alors ce qu'il veut faire, c'est qu'on devienne des personnes définies par son amour. Des gens qui n'ont plus besoin d'éprouver, ni de paraître, mais qui sont vraiment libres d'aimer. Parce que chaque fois que nous aimons avec l'amour de Jésus, nous rapprochons les autres des dieux. Alors voilà le projet de Jésus. Voilà pourquoi le Dieu Tout-Puissant s'est mis à genoux pour laver nos pieds. Parce que le péché, c'est cette chose qui pue, qui colle à nous, qui produit la honte, qui nous empêche d'aimer. Et ceci est fou, et ceci est beau, mais ce n'est pas toujours facile d'accepter. Regardons par exemple la réaction de Pierre. Qu'est-ce qu'il fait, classique Pierre, impulsif, lorsque Jésus s'approche de lui? « Non, Jésus, jamais! Tu ne me laveras pas les pieds !» Puis, 2 secondes après, « Jésus, je suis dégueulasse, lave-moi tout !» Alors, ça nous fait rire peut-être, mais soyons honnêtes, nous faisons pareil. Parfois, comme Pierre au début, nous pensons « Je n'ai pas besoin que tu me laves, mais puis ils ne sont pas si sales que ça. » En gros, c'est bon, Jésus, merci, mais je me débrouille. Et d'autres fois, comme Pierre aussi, nous paniquons. « Ah, mais Jésus, je suis désespéré, lave-moi tout. Je ne sais plus ce que je veux faire. Tout ce que j'ai fait, je les rate. » Mais Jésus rectifie, il distingue deux choses. La première, c'est le bain, qui est l'œuvre unique qu'il accomplit à la croix. C'est-à-dire, une fois pour toutes, Jésus nous a lavé, il nous a enlevé les étiquettes de la honte, il nous a fait enfants des dieux. Et la deuxième chose, c'est le lavement du pied, qui est ce nettoyage quotidien dont nous avons besoin en marchant dans un monde poussiéreux, dans un monde où nous tombons et trébuchons. Et je peux vous dire que j'en ai besoin de ces lavements, parce que quand je tombe, je ne me salis pas seulement les pieds, mais j'ai de la poussière partout. Alors, en faisant cette distinction, Jésus nous met en garde contre 2 erreurs. Si l'on croit seulement que le bas compte, je me focalise sur les bas, on peut dire « Ok, c'est bon, je suis sauvé, maintenant je peux vivre et faire ce que je veux. » Mais en faisant ça, nous allons ruiner nos relations et nos vies. Et la deuxième chose, c'est que si on se focalise uniquement sur les lavements des pieds et on oublie le bas, on va être rongé par la culpabilité. Toujours à se dire « Mais regarde, qu'est-ce que je suis sale. À nouveau, je me salis les pieds. » Et qu'est-ce qu'on va faire? On va passer notre temps, soit essayer de se cacher, soit essayer de s'auto-nettoyer. C'est pour ça que Jésus dit qu'on a besoin des deux. Les bains, qui nous rend enfin des dieux une fois pour toutes, qui nous enlève la honte, t'es accepté, t'es aimé. Et les lavements des pieds, qui nous rappellent régulièrement son pardon. C'est un peu comme un enfant qui se porte mal, hein? Vous qui avez des enfants, s'il fait une bêtise, on ne va pas lui enlever le nom de famille, on ne va pas arrêter de l'aimer, n'est-ce pas? Mais s'il ne reconnaît pas qu'il a mal agi, il ne va pas grandir, il va toujours rester enfant, il ne va pas apprendre à faire des meilleurs choix. Alors, selon beaucoup de coachs et des livres de développement personnel, la solution à la honte, la solution à ces sentiments d'être nul, à ces sentiments qu'on pue, c'est de se répéter « Tu es bon, tu es doué, tu es formidable, tu es grand, tu es puissant. » Mais la réalité, c'est que tant qu'on se regarde soi-même, nos égos vont tourner en boucle. Et la voie de la culpabilité va toujours nous ramener à ce qu'on a fait hier, ce qu'on a pensé la nuit d'avant. Alors le vrai remède, ce n'est pas de se convaincre qu'on est assez bien. Le vrai remède, c'est de regarder Jésus et de le laisser nous laver. Regardez ce qu'il a écrit le prophète Esaïe, bien avant Jésus. « Regardez-moi et soyez sauvés, car je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. » Voilà la clé. Pas regarder vos efforts, pas regarder vos masques, pas regarder vos échecs, mais regardez Jésus. Alors la solution, ce n'est pas de mieux cacher nos odeurs, pas de se rajouter du parfum sur les habits qui cachent notre saleté. La solution, c'est de regarder Jésus qui a pris notre odeur pour qu'on respire son parfum de vie. Jésus qui est venu quelque chose d'horrible à regarder, afin que quand les pères nous regardent, ils nous trouvent beaux. J'aimerais que vous vous imaginiez la scène du lavement des pieds. Les disciples, ils sont autour de la table, peut-être toujours en train de discuter qui est le plus grand, qui mérite quoi, qui a raison. Et Jésus, l'invité d'honneur, se lève, se déshabille, il leur lave les pieds. Et après, il se remet à table avec eux, il leur pose cette question. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai fait pour vous? Mes amis, est-ce que nous avons déjà vu Jésus agenouillé devant nous? Est-ce que nous avons déjà demandé, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais là avec mes pieds sales? Est-ce que nous l'avons entendu nous répondre, est-ce que tu comprends ce que j'ai fait pour toi? Et si nous levons les yeux vers la croix, nous pourrons comprendre ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que tu comprends ce que j'ai fait pour toi? Je suis pendu sur cette croix, tout nu, pour porter ta honte. Je suis couvert de crachats pour souffrir le rejet qui t'appartient. Est-ce que tu comprends ce que j'ai fait pour toi? Je suis venu te chercher quand tout le monde disait que tu étais trop loin. Je t'ai accepté quand d'autres t'ont rejeté. J'ai pris ta honte pour que tu sois couvert de ma gloire. J'étais brisé pour que tout soit entier. J'ai pris ton odeur des morts pour que tu sens ma vie. Et si nous regardons encore, nous voyons les tombeaux vides. Jésus n'est pas resté dans la poussière. Il est ressuscité. Il est monté en gloire auprès du Père. Et dès là, il continue de nous poser cette question. Est-ce que tu comprends ce que j'ai fait pour toi? Oui, tes pieds se saliront chaque jour. Mais désormais, ton odeur n'est plus celle de la honte, mais celle de mon amour et ma grâce. Je me suis mis à genoux pour faire de toi un enfant de Dieu. J'aimerais prier pour vous. Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que pas parce que nous sommes bons, parce que nous avons fait tous les meilleurs choix, parce que nous sommes grandioses, mais c'est parce que tu es bon. Tu es tellement bon et tellement aimant que tu n'as pas eu peur de laisser ton trône, ton confort, mais tu as décidé de donner ta grandeur pour notre petitesse. Merci pour cet amour. Aide-nous à comprendre la beauté de qui tu es, la folie de ton amour qui nous amène aujourd'hui à nous appeler enfants des dieux, à pouvoir être rassemblés, à t'élouer à cause de ce que tu as fait dans notre vie. Et qu'au fur et à mesure qu'on te voit, que l'on soit transformé par ton amour pour que les autres puissent aussi te voir. Merci de nous avoir pris la honte et de nous avoir donné la liberté de se montrer tel que nous sommes et de pouvoir pointer les gens, pas vers nos pieds sales ou nos pieds propres, mais vers toi, l'auteur de tout ce qui est bon à nous. Nous te louons. Amen.